C'est Radio Campus.
Radio Campus.
Vous n'écoutez pas de musique chez vous?
Ah non, plus du tout, non. On a des concerts de silence, nous.
Dites à cette bêtasse de fermer sa gueule. Dis-le lui toi-même, connard. Non, est-ce que je te dis, me traite pas de con.
Radio Campus.
Le style est efficace, dirais-je.
88.3.
Fermez-la tous.
Radio Campus. La science infuse.
Et il est 14h sur Radio Campus Orléans. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la science infuse. On commence à être un petit peu régulier en ce moment, n'est-ce pas, Anaïs ?
C'est vrai. On en fait de plus en plus.
C'est plutôt agréable, hein, de se retrouver du coup tous les lundis de 14 à 15h pour pouvoir justement parler science de manière générale sur le campus, de parler science en région, de parler science justement avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de cuisine. On va s'intéresser à un ustensile qui s'appelle une marmite. Alors non, on va pas parler de cuisine moléculaire ou d'autres choses. En fait, on va parler de bien d'autres sujets. Alors le projet en lui-même s'appelle en effet marmite. Bonjour Pierrick, bonjour Stéphane.
Bonjour Erwan.
Bonjour.
Bonjour Anaïs et toute l'équipe.
Alors Pierrick Bidot-Sorita, alors à Marmite, tu es le directeur opérationnel, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Oui, c'est...
Et Stéphane Cordier, toi tu es Drari, et on se disait juste avant de commencer l'émission, qu'est-ce que c'est Drari en fait ? Que je te demanderai ce que ça veut dire.
Donc le Drari, c'est délégué régional académique pour la recherche et l'innovation. Donc je représente en fait le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour la région Centre-Val de Loire. À la base, je suis professeur à l'université d'Orléans, donc je connais un petit peu la maison.
Voilà, la maison, bah justement, marmite, c'est bien ça ce que ça veut dire. Ça veut dire maison des actions régionales pour les mathématiques, l'informatique et leurs interactions. Et dans le mot interaction, le T est en majuscule. Pourquoi ?
Alors parce que en fait, à la base... Le projet porte sur effectivement les mathématiques et l'informatique, dont beaucoup sur les sciences numériques, mais il était très important, il faudra revenir un petit peu sur la genèse du projet, et je vais laisser Pierrick en parler, mais d'ouvrir sur l'ensemble des domaines sur lesquels les sciences numériques peuvent interagir.
Alors justement, les objectifs de Marmite, ça vient d'où ? Parce que c'est tout récent en plus comme projet, ça a été lancé en mars 2024.
C'est ça.
Qu'est-ce qui a conduit, Pierrick, raconte-nous, qu'est-ce qui a mené justement à la création de Marmite ?
Et ben donc c'est suite aux actes des assises des mathématiques qui ont lieu, c'était en septembre 2023. Ah oui, on m'entend mieux comme ça. En septembre 2023, donc le recteur de l'Académie Orléans-Tours, Gilles Albou, a eu donc saisi cette opportunité pour lancer un projet de maison des mathématiques, comme c'était préconisé par les assises, dans la région Centre-Val-de-Loire. Donc il a présenté ce projet il y a un an, c'était le 6 octobre 2023, lors de la fête de la science. On pourra reparler tout à l'heure, parce que la fête de la science est quand même l'élément marquant sur les sciences de l'automne. Donc le recteur Gilles Albou a présenté ce projet de maison des mathématiques, et ensuite donc bah, ce projet s'est un petit peu déroulé. On l'a lancé, comme tu l'as dit, au mois de mars 2024, le 14 mars. Le 14 mars, c'est une date importante pour les mathématiciens, parce que c'est le Pi Day, voilà, 14 mars, voilà, le 14e jour, et donc du 3e mois.
Le Pi Day, juste pour préciser pour les auditeurs peut-être, Pi c'est le nombre 3.14.
Le fameux qui a des décimales
voilà,
à l'infini.
Qui a un lien avec le cercle, avec le disque, etc.
Ouais.
Et en anglais, enfin dans les pays anglo-saxons, on donne les dates en donnant le mois avant le jour. Et donc le 14 mars, en fait, c'est fait 3.14. Donc c'est le Pi Day. Ça a été décrété comme journée internationale des mathématiques par l'UNESCO depuis quelques années. C'est célébré dans le monde entier et en France en particulier. Il y a une semaine des mathématiques et c'est la semaine qui contient le 14 mars.
Ah oui, donc vraiment la date du 14 mars 2024 pour lancer Marmite, c'est pas un hasard.
On l'a choisi. Un
hommage à Pi, en effet, donc 3 comme le mois de mars et 14 comme le jour, donc 3-14 2024, parce que fallait bien que ça arrive à un moment donné, quoi. On n'allait pas attendre 2032, je sais pas.
Peut-être
un point important si vous cherchez des informations sur Marmite, c'est qu'il ne faut pas mettre de T. Parce qu'effectivement, c'est un acronyme, hein, c'est la maison des actions régionales pour les maths, l'informatique et leurs interactions. Et le T, c'est le T de interaction. Et donc, c'est la marmite, mais sans E.
Voilà. Marmite.fr.
Ouais. Marmite, du coup, il y a cette vocation justement à être sur l'intégralité du territoire de la région Centre-Val de Loire. Donc, il y a différents acteurs et actrices. Alors, je vois notamment, il y a Pépite, il y a l'Académie d'Orléans-Tours, il y a aussi le CRIJ, par exemple. Qui sont tous ces partenaires ?
Alors, je peux commencer si tu veux. Donc, effectivement, il y a beaucoup de partenaires. On a rassemblé plus de 50 actions, projets qui sont portés par plus d'une trentaine de structures, d'associations et d'institutions qui portent déjà des actions dans la région Centre-Val de Loire. C'est le périmètre, effectivement, c'est la région Centre-Val de Loire. Le rectorat est très impliqué. Hein. Pierrick est mis à disposition pour ce projet à plein temps par le rectorat de d'Orléans-Tours. Et l'objectif, c'est de donner plus de moyens, plus de visibilité aussi, parce qu'il y a déjà énormément d'actions. On pourra en détailler quelques-unes. Des actions depuis parfois 40 ans. Donc on est plus ancien que Radio Campus.
Ah, pas plus ancien que Radio Campus, ils ont 55 ans maintenant.
Alors,
bon.
Excusez-moi.
je t'en prie.
Et donc, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font et le constat fait par le recteur et par l'ensemble des partenaires, puisque dans les partenaires du premier cercle, il y a les deux universités, l'Université d'Orléans, l'Université de Tours, il y a l'INSA Centre-Val de Loire. Il y a aussi le conseil régional qui est très très mobilisé sur ce projet et donc le CRIJ fait partie aussi des instances régionales qui participent.
Je vois le CNRS aussi.
Et donc voilà, je voulais insister sur le CNRS puisque c'est la dimension nationale du projet, c'est-à-dire que le périmètre des actions, elle se situe dans notre région, mais avec vocation de servir d'exemple pour d'autres projets dans d'autres régions.
Et justement, dans d'autres régions, est-ce que c'est quelque chose qui est unique à la région Centre-Val de Loire d'avoir Marmite ou est-ce qu'il y a des dispositifs similaires,
il y a des
alliances similaires dans d'autres régions, Pierrick ?
Oui, il y a des maisons des mathématiques dans d'autres régions académiques, mais elles n'ont pas tout à fait toutes les mêmes cibles, en fait. Nous, on a une particularité d'avoir quatre cibles. Alors, je vais détailler. Alors, par exemple, il existe des maisons des mathématiques dans la région lyonnaise, voilà, vers Grenoble aussi, ou en région parisienne. Mais on a cette particularité d'avoir, comme on disait Stéphane, donc on a un copilotage des différentes universités, etc., les six membres fondateurs, on va dire, et ensuite un consortium de 58 partenaires. 58 partenaires qui vont de la petite association presque de quartier, ou, voilà, je ne veux pas dévaloriser certaines, mais on a par exemple les Petits Débrouillards, qui est une association pour animer les sciences auprès des jeunes qui font des actions comme Sciences en bas chez toi, des choses comme ça, au CNRS. Donc voilà, donc c'est assez vaste. Et des actions, donc quatre cibles, action en direction des jeunes, on va dire, de l'école primaire jusqu'aux étudiants, bac plus 3 ou plus. Et action avec et pour les entreprises. Ensuite, on a notre troisième cible, c'est action vers les personnels de l'éducation nationale, pour faire la formation continue, et la quatrième action, donc c'est l'action au grand public. Voilà. Donc c'est vrai que, par exemple, sur le grand public, je crois qu'on doit être une des seules maisons des mathématiques à avoir une action vers le grand public.
Alors, en fait, peut-être une des spécificités de Marmite par rapport à d'autres exemples que citait Pierrick, c'est que, contrairement à son nom, on dit que c'est la maison des actions, mais ce n'est pas un lieu. C'est-à-dire que l'idée de la Marmite, ce n'est pas de créer un lieu pour rassembler, pour accueillir du public. Et il y en a beaucoup d'autres à Paris, à la Maison Poincaré, hein, que je vous invite à aller visiter.
Qui a ouvert il y a quelques mois.
Justement, il y a un an, c'était exactement... l'inauguration de la Maison Poincaré. Et il y a d'autres lieux comme ça, effectivement, à Lyon, près de Toulouse, pour la Maison Fermat, un certain nombre de lieux comme ça. Alors, la Marmite, la différence principale, c'est que ce n'est pas un lieu d'accueil du public, c'est plutôt une fédération d'actions.
C'est un réseau, c'est ça.
C'est un réseau. Et
d'acteurs
c'est
et d'actrices autour de ces thématiques.
Exactement.
Mathématiques et informatiques.
C'est une maison d'action au sens une fédération, une famille. On essaye de mettre ensemble les acteurs pour, encore une fois, leur donner plus de visibilité, pour coordonner, parce que des fois, on a des problèmes d'agenda, on va organiser des actions le même jour pour le même public et donc c'est un petit peu dommage. Et donc on va essayer de coordonner un petit peu en laissant évidemment la liberté à chaque acteur de continuer les actions comme il le souhaite. Et puis on espère, on a fait des demandes de financement pour lequel on est en attente de réponse. Voilà.
Alors parmi, on peut un petit peu citer les différentes actions qui ont déjà été mises en place par Marmite. On dit d'ailleurs Marmite ou La Marmite, parce que sur le site internet il y a écrit un moment La Marmite.
La Marmite, oui.
Oui, on peut dire La Marmite. Oui. Alors je crois, Anaïs, tu as vu un livre.
Oui, j'ai vu qu'en 2024, il y avait Le Voyage au Centre des Maths qui était sorti. Et je veux savoir c'était quoi les objectifs du fait de sortir un livre dessus.
Alors on l'a amené en studio, on vous en laissera un exemplaire et même peut-être deux, comme ça s'il y a si des étudiants veulent le voir, ils pourront venir vous rencontrer parce que la porte est ouverte si j'ai bien compris.
Et, oui.
Le voyage au centre des maths, le centre évidemment c'est la région centre. Le voyage au centre des maths, en fait, c'est un ouvrage qu'on a réalisé grâce à une association qui s'appelle ADECUM. Qui a financé la réalisation, parce qu'il y a eu une journaliste qui a travaillé pour faire une quarantaine d'interviews d'acteurs qui, comme je disais tout à l'heure, portent un certain nombre d'actions, comme le rallye mathématique. Le rallye mathématique de la région Centre-Val-de-Loire, on estime qu'il y a à peu près eu 500 000 participants depuis 40 ans. C'est un demi-million de participants.
J'y ai participé j'étais au collège, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, on n'a pas répété. On n'avait pas répété ce point. Mais effectivement, en général, quand on a un auditoire de 5-6 personnes en région Centre-Val-de-Loire, il est assez courant que au moins une de ces personnes ait participé. Et d'ailleurs, Pierrick...
C'est un peu comme le paradoxe d'anniversaire. Voilà. Dès qu'on a 30 personnes, on est sûr d'avoir presque sûr d'avoir deux personnes qui sont nées le même jour. Voilà. C'est un problème de maths classique qu'on fait. Bah, le rallye mathématique, c'est ça. Avec le demi-million d'élèves qui ont participé, soit en troisième ou en seconde, on se retrouve vite fait avec... beaucoup de personnes à chaque fois qui ont participé, preuve en est, peut-être que tu n'es pas le seul. Aussi,
Anaïs, ça te parle le rallye des mathématiques?
Oui, j'y ai participé.
Ah bon, et là aussi, oui.
Ah bah,
Léandra alors Léandra qui est à côté de moi, elle m'observe à la technique, mais il n'y a pas de retour d'enceinte dans le studio vu que pour éviter les larcènes. On parlait des rallyes mathématiques qu'on peut faire au collège ou au lycée. Est-ce que tu te rappelles en avoir participé à un?
Je ne me rappelle pas avoir participé personnellement à l'un d'entre eux, mais je connais des gens qui y ont participé. Ah ouais,
bon. Voilà, donc effectivement,
ça te parle.
On fait carton plein dans le studio.
Sans avoir répété, merci, dans tout cas. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est assez originale. On peut peut-être rappeler juste pour ceux qui n'auraient pas la chance d'être comme vous, des connaisseurs et même des participants, c'est ce qui est... original dans le rallye mathématique, c'est que c'est un concours qui en général a lieu autour du PIDE. Hein, c'est dans la semaine des mathématiques. Ça se passe, c'est un concours qui dure une heure et demie et qui, contrairement à beaucoup d'autres épreuves, se fait par classe. Donc c'est une épreuve collective. Et ça a été lancé, on va fêter les 40 ans. Et c'est quelque chose qui était pour l'époque très original, de favoriser les compétences psychosociales, le fait de le sens du collectif, parce que le sujet, il fait 8 questions. Pour chaque question, il faut une bonne heure pour le faire. Et donc, en une heure et demie, personne dans n'importe quelle classe même peut tout faire. Et donc, il faut s'organiser. Et donc, les profs de maths... qui participent, il y a plus de 500 classes maintenant qui participent dans toute l'académie à ce rallye.
13 000 élèves
l'an dernier. L'an dernier.
Et tu m'as dit que qui organise le rallye des mathématiques?
Alors, c'est l'association Rallye Mathématique du Centre, donc il y a 40 ans.
Et qui est donc fédérée au sein de Marmite.
Voilà, c'est ça, qui est intégrée, qui est dans la Marmite. Voilà.
Je pense aussi au kangourou des maths, je me souviens avoir fait ça également.
Kangourou des maths, oui, c'est une épreuve qu'on... cette fois-ci, c'est individuel. Hein.
C'est un concours individuel.
C'est un petit QCM. Alors ça, on peut le faire de la 6e jusqu'au post-bac, voilà, c'est ça. Et bien, le concours...
Et c'est national, je crois, le
c'est
concours.
National.
C'est même international.
Alors, c'est national, mais c'est né dans la région Centre-Val-de-Loire, parce que ça vient de Vendôme, voilà, c'est ça, dans le 41.
D'accord.
Voilà, c'est
donc, dans le livre, Alain, que je vous montre, alors les auditeurs ne le voient pas, mais c'est le livre Voyage au Centre des Mathématiques. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez le PDF voulez.
Sur marmite.fr.
Sur marmite.fr, vous pouvez trouver le lien sur le fichier. Ouais. Et si vous voulez un exemplaire en papier glacé comme celui que je vous montre là, eh bien, il suffit d'écrire à contact@marmite.fr et dans la limite des stocks, on vous en enverra un. Avec grand plaisir. Et donc, pour revenir sur Kangourou, effectivement, il y a une interview du créateur de Kangourou qui est un grand concours dans le monde entier, qui a atteint à certains moments plusieurs millions de participations, de participants, pardon, eh bien, il vient aussi de la région Centre-Val-de-Loire.
Et il fait bien sûr partie de la marmite.
Alors, quels sont les événements qui viennent prochainement tout au long de cet automne? Et on peut même parler un petit peu du calendrier jusqu'au début 2025.
Ah, justement, j'ai préparé pour ne pas louper.
quels sont les rendez-vous auxquels nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent peuvent participer et peuvent bénéficier?
Alors, peut-être le premier dans le temps, ça va être la fête de la science, ça je peux peut-être
en
parler.
Avant, du 4 au 14. Fête de la science, aujourd'hui. On a une exposition de portraits d'informaticiennes. Alors, je ne sais pas si vous avez l'info, voilà, c'est ça. C'est à la BU de Sciences, voilà. Donc, 7 portraits d'informaticiennes où on présente leur parcours. Voilà. Donc, il y a des roll-ups qui ont été on va dire, fabriqués, financés.
Et je crois que vous en parliez la semaine dernière avec Emmanuel Sepa et Geneviève Guettem. Et donc, je vous invite à réécouter le podcast.
Sur quel site internet?
Ah, ça, je vous laisse le dire.
Orléans.radiocampus.org, bien évidemment.
Ensuite, alors dans la région centre, on a le 3 octobre une conférence de Anne Canto. Alors, mais c'est pas tout à fait dans le coin, c'est dans mon
c'est vers la Châtre.
Voilà, c'est ça.
Près de Châteauroux, et c'est sur la crypto. Anne Canto, c'est une chercheuse qui a reçu un prix prestigieux de la Fondation L'Oréal, je crois, l'année dernière. Et donc, c'est une chercheuse de très haut niveau qui va venir faire une conférence sur la cryptographie dans notre belle région.
Ah, la cryptographie, ok. Je pensais que c'était la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est la cryptographie?
La cryptographie, c'est la science de
du codage.
D'accord.
C'est ça. Cryptographie, oui, c'est en plein essor. Tout ce qui est
oui, donc c'est lié à la crypto-monnaie.
Crypto-monnaie, oui, c'est ça.
C'est lié.
Les blockchains, etc.
Qui est d'ailleurs une super émission sur Radio Campus.
Oui, c'est pour ça, j'ai entendu. Fête de la science, donc, qui commence le 4 octobre, il me semble.
Du 4 au 14 octobre.
Voilà, ça, je peux peut-être en parler parce que c'est effectivement un événement qui est labellisé par le ministère que je représente, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est porté pour la région Centre-Val-de-Loire par l'association Centre Sciences, qui fait énormément de choses. Donc il y a beaucoup de villages des sciences, il y en a 7 principaux, il y a 250 événements. Et là, le site de référence, c'est le site de l'association Centre Sciences. Et il y a un agenda partagé qui s'appelle Éco-Sciences, qui permet aussi de localiser, parce qu'il y a une carte qui permet de voir les événements qui sont près de chez vous. Ouais. Et là, il y a énormément de choses. Alors, cette année, sur Orléans, puisque c'est Radio Campus Orléans, c'est le campus du CNRS qui accueille le village des sciences. Du samedi et dimanche de cette semaine. Et là, il faut venir très nombreux parce que le lieu tourne et donc le CNRS ouvre ses portes et ça, c'est uniquement tous les 5 ans. Donc là, c'est l'occasion. Avant 5 ans, vous n'aurez pas cette chance de visiter les laboratoires du CNRS. Alors, il n'y a pas que le CNRS, il y a tous les partenaires d'Orléans qui seront présents. Évidemment, l'Université d'Orléans est présente, mais aussi le BRGM, INRAE et énormément d'associations. Et il y a plusieurs milliers de personnes. Vous ne serez pas tout seul si vous y allez. Et il y a beaucoup d'activités ludiques, des ateliers, etc. Il faut y aller en famille ou avec des copains. Et c'est vraiment un bon moment. C'est gratuit, évidemment, il faut le rappeler. Mais il n'y a pas que cet événement-là, il y a aussi beaucoup d'autres événements. Alors peut-être que Pierrick peut en donner quelques-uns.
Lors de la Fête de la Science, par exemple, c'est l'association Decanum, donc, voilà, qui propose de découvrir la programmation de petits robots, les robots League, ça s'appelle comme ça, je crois. Vous retrouvez toutes les infos sur Marmite. Donc je vais continuer. Ensuite, le 8 octobre, il y a une conférence sur des femmes mathématiciennes. Parce que ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à notre projet Marmite, c'est la mixité homme-femme. Et on sait qu'on a besoin beaucoup de femmes en mathématiques.
On en parlera justement tout à l'heure dans une autre partie de l'émission.
Donc le 8 octobre à Bôle, donc ça c'est tout proche, une conférence de M. Hochkorn, qui est ancien professeur de prépa sur Orléans. Ensuite, le 10 octobre, il y a une projection d'un documentaire sur Man Ray et les équations shakespeariennes. Ça doit être à la médiathèque d'Orléans. Voilà. Donc là aussi, le 10 octobre. Le 12 octobre, il y a une conférence sur fake news et mathématiques par Roger Mansuy, qui est un mathématicien, tu pourras en parler peut-être, Stéphane. Le 12 octobre, donc à la médiathèque d'Orléans. Il y a une table ronde sur parcours scientifique et femmes, donc ça peut-être on en parlera, c'est le jeudi 17 octobre à la BU aussi. Et puis ensuite, on arrive vers fin octobre, c'est 19-22 octobre, il y a les journées nationales de la PMEP qui est plus réservée aux professeurs de mathématiques, on va dire. Voilà. Mais après, n'hésitez pas à aller voir à marmite.fr, vous allez dans la rubrique actualité, vous pouvez suivre tout et vous avez toutes les informations, les liens.
Super, restez avec nous dans la science infuse. On parle aujourd'hui de marmite. Alors on parle pas de cuisine, on parle en effet de la maison justement régionale autour de l'informatique et des mathématiques avec nos deux invités. C'est Pierrick Bidot-Sorita, directeur opérationnel du coup de marmite, et Stéphane Cordier, donc Drari, délégué régional, et je n'ai plus la suite de l'acronyme.
Délégué régional académique pour la recherche et l'innovation.
Eh bien restez avec nous dans la science infuse, on est ensemble jusqu'à 15h. Pour le moment, on continue en musique et on continue cette interview. Bien évidemment, après on parlera justement des femmes dans les sciences avec toi Anaïs. Three Dusters, c'est un titre de Nadir. On parle de science à l'antenne de Radio Campus Orléans sur orléans.radiocampus.org, en FM sur le 88.3 et en radio numérique terrestre. On parle de science avec nos invités Pierrick Bidot-Sorita et Stéphane Cordier autour de la maison justement régionale autour des mathématiques et de l'informatique. Ça s'appelle Marmite. Et avec toi Anaïs, on va évoquer justement les femmes dans ces sciences-là, dans les mathématiques et l'informatique.
Et oui, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure de l'implication des femmes dans le monde des mathématiques. J'aimerais savoir de quelle manière vous brisez justement ce code qui nous dit que les femmes et justement les petites filles ne peuvent pas apprendre les mathématiques et seront toujours moins fortes que les hommes. De quelle manière on brise ce code ?
Alors, bien évidemment, avant de répondre, dire que c'est faux et bien et que c'est une idée reçue et qu'il n'y a aucune espèce de preuve qui au contraire
oui,
les
elles
filles
sont souvent meilleures même,
donc en fait effectivement c'est des stéréotypes de genre qui s'installent effectivement souvent depuis la petite enfance. Et donc, dans le cadre du projet Marmite, il y a un certain nombre d'actions qui sont portées par les partenaires. Je redis quand même que le projet Marmite, il rassemble, il fédère des actions, mais c'est des actions qui, pour la plupart, existaient déjà, qui sont portées par des associations. Et donc, on ne veut pas les approprier, on veut juste leur donner de la visibilité. Et merci de nous donner cette possibilité. C'est des actions... Alors souvent, qui commence peut-être trop tard, puisque comme on vient de le dire, ces problématiques s'installent dès la petite enfance. Les actions que nous, on porte souvent, elles sont plutôt à partir du collège ou à partir du lycée. Et il y a un certain nombre d'actions pour essayer de casser ces stéréotypes qui sont basés sur le fait de mettre des filles uniquement entre filles. Et donc de ne pas de faire des événements qui sont pas mixtes pour défendre la mixité. Donc ça peut paraître paradoxal, mais il y a des études qui montrent que pour arriver à casser ces images, et bien cette façon de faire est assez efficace. On peut donner quelques exemples si vous voulez. Je vous ai interrompu.
Ah, du tout. C'est juste que tout à l'heure, on a parlé de quelque chose qui m'a pas mal intéressé, c'était des colonies de vacances. Et ça rentre dans ce que vous venez de dire, en effet.
Alors, donc la colonie de vacances en question, ça s'appelle le Centre Gallois. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose qu'on a créé à l'Université d'Orléans il y a plus de 15 ans. Gallois, ça s'écrit avec un seul L. Hein, c'est le nom d'un célèbre mathématicien, Évariste Gallois, qui est mort en duel... très très jeune, après avoir écrit dans sa cellule une théorie qui est encore maintenant très très utile. Et donc le Centre Gallois, c'est destiné à des jeunes de seconde, recommandés par leurs professeurs de mathématiques, qui sont issus de milieux pas forcément en lien avec les études scientifiques. Donc ça peut être des gens qui sont... de milieux très modestes ou dans des familles très rurales, donc n'ont pas accès forcément aux événements dont on vient de parler de façon aussi facile que les élèves qui sont avec des parents profs ou avec des parents ingénieurs. Donc on s'adresse à ces jeunes-là et on les met pendant une semaine en immersion complète avec des chercheurs en mathématiques. Alors, ils sont volontaires, hein, on ne les force pas. Hein, donc, et ils ressortent au bout d'une semaine avec vraiment une image complètement changée de ce que sont les mathématiques et l'informatique. Et alors, pour répondre à ta question, depuis 2 ans, on a expérimenté le fait d'avoir une des 2 semaines, parce qu'il y a 2 fois un groupe de 15 jeunes qui le font. Depuis 2 ans, il y a une des 2 semaines qui est réservée aux filles. Et le retour d'expérience des jeunes filles de seconde qui ont bénéficié de ce dispositif, il est extrêmement positif. Alors, je peux détailler si vous voulez.
Mais allez-y, vous êtes là pour présenter.
Donc, oui, mais je ne veux pas monopoliser la parole, je ne sais pas si...
Non, mais après, c'était d'autres actions, je voulais que, mais vas-y, on a le temps, je pense. On nous laisse la parole, on va prendre toute l'après-midi.
Allez-y.
Le retour d'expérience, c'est que souvent, quand il y a des groupes mixtes, c'est les garçons, d'ailleurs, vous voyez, c'est moi qui parle tout le temps, qui occupe la parole, et le fait d'avoir que des filles, bien évidemment, naturellement, il y a que des filles qui parlent, et à la fin de la semaine, leur retour d'expérience, il est extrêmement positif. Alors, je voulais peut-être préciser que ça a été possible grâce à un mécénat, et on espère en avoir d'autres des mécénats, parce que tout ça coûte de l'argent, puisque c'est gratuit pour les participants et les participantes. Alors, la semaine où il y a des filles, c'est que des participantes, et c'est un mécénat par la fondation Éric et Yvetta Larchevêque, qui donne un petit peu d'argent pour cofinancer. Il n'y a pas que, hein, le conseil régional... l'université contribue aussi fortement à travers le temps que passent les collègues enseignants-chercheurs pour animer ces sessions. C'est des sessions où on donne une image différente parce qu'on donne une image ludique des mathématiques, on construit des trucs, voilà. Et il y a des témoignages, je vous recommande le livre d'or du Centre Gallois. Donc centregallois.fr, c'est le site web de cette initiative. Et si ça vous intéresse ou si vous connaissez des jeunes qui correspondent au profil que je détaillais tout à l'heure, donc qui sont en seconde cette année, c'est au mois de mars à peu près qu'il faut s'intéresser pour en parler avec son prof de maths d'abord, parce qu'il faut la recommandation du prof de maths, et candidater. On prend des jeunes qui viennent de toute la région. On a des jeunes qui viennent des 6 départements de la région. Et franchement, c'est une expérience. Enfin, je vous laisse lire le livre d'or, ça parlera mieux que moi.
Et surtout que ça rentre dans le cadre des stages de seconde. Donc, c'est là que ça peut être l'occasion de faire le stage de seconde en plus en colonie de vacances de maths. Donc, c'est une grande chance. Tu parlais des mécènes. Oui, on va vraiment les remercier. La Fondation FEIL et puis la région Centre-Val-de-Loire, monsieur le rectorat, parce que c'est aussi les principaux mécènes du rallye mathématique du centre qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, sinon, qu'est-ce que...
Sur les filles.
D'autres actions, oui. D'autres actions, on a des spin meetings qui sont organisés avec l'association Femmes et Maths. Donc, ça s'appelle les JFMI, des journées sur les femmes, maths et informatique. Et donc, il y en a plusieurs dans l'académie qu'on organise. Mais ce n'est pas seulement académique, c'est aussi national. Mais dans l'académie, on est partenaire de cette association.
Alors ça, peut-être le concept, c'est sur le temps scolaire. Plusieurs établissements, plusieurs lycées ou des collèges, parce qu'il peut y avoir de la classe de 3e jusqu'à la première terminale, le moment où on fait les choix d'orientation, de choix de spécialité, etc. Donc c'est des moments importants. Et donc on organise dans des lieux d'enseignement supérieur, on fait venir que des jeunes filles. Là aussi, elles sont volontaires, on ne les force pas. Et elles ont toute une journée où on va leur faire découvrir les mathématiques et leur déboucher de façon concrète, en rencontrant un speed meeting.
Il y a trois étapes, on va dire. Il y a une première étape plutôt basée sur casser les stéréotypes qu'on évoquait tout à l'heure. Une deuxième étape qui est ce que tu évoquais à l'instant, speed meeting, donc rencontre avec des jeunes, des professionnels, femmes, qui pourront devenir après leur marraine et puis pour les aider à évoluer. Et une troisième partie, où je vais te laisser parler Stéphane, qui est une représentation théâtrale, comme une petite pièce de théâtre, on va dire.
C'est une pièce de théâtre, en fait, où on présente justement ces stéréotypes. Et après, alors, je voudrais peut-être pas casser trop le... Parce que normalement, c'est un peu une surprise. Oui. Mais après, il y a une partie interactive. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que celles qui auront la chance d'y participer, normalement, elles sont pas au courant.
Alors, il y en a une organisée le 31 janvier. Voilà, le 31 janvier, à Orléans, ici, donc par l'Université de Sciences.
Mais ça, les élèves le sauront par leurs enseignants, parce que c'est dans le cadre scolaire. Il y a une troisième action qui, là aussi, est non mixte et réservée aux jeunes filles. Ça s'appelle Girl Can Code. Là, c'est une association nationale qui s'appelle Prologin, qui a l'initiative de ce dispositif et qu'on a développé dans la région Centre-Val-de-Loire depuis 3 ans. Et Girl Can Code, en fait, ça se passe le week-end, souvent dans des lieux d'enseignement supérieur qui sont ouverts justement de façon un petit peu exceptionnelle pendant un week-end, pour que des petits groupes, c'est une vingtaine, une trentaine de jeunes filles, viennent s'initier au codage, et là aussi de façon très concrète, c'est-à-dire que elles vont programmer des petits dispositifs électroniques qui font des petites lumières, etc. Et donc elles repartent avec quelque chose sur lequel elles ont travaillé et qui est assez sympa. Voilà. Donc ça marche très très bien. Et sur certaines de ces actions, il y a des études d'impact qui montrent que ça effectivement a le résultat attendu, c'est-à-dire que ça change complètement la perception par celles qui ont pu participer à ça, de la possibilité pour elle de faire des études scientifiques. Et donc après, l'idée, c'est que ces jeunes filles-là, d'une certaine façon, jouent un rôle d'ambassadrice et en parlent autour d'elles, parce que ça reste sur des effectifs assez petits. Sur le Centre Gallois, je vous disais, c'est 2 fois 15 personnes sur toute la région. Au niveau des classes de seconde, sur Journée Filles et Maths Info, on est sur 5 ou 6 sections d'une centaine,
par département,
par département pour une centaine de jeunes filles, une fois par an. Et sur Girl Can Code, on est peu près pareil, voilà, avec des effectifs de 20 ou 30. Là aussi, alors c'est sur la base du volontariat. Et là, par contre, ce n'est pas sur le temps scolaire.
Et est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais est-ce que vous avez d'autres projets qui ne sont pas forcément encore aboutis, mais dont les idées sont là pour justement impliquer des filles ou...
Alors, il y a un certain nombre de projets qui sont dans les tuyaux. Il y a des projets pour faire intervenir des gens du milieu professionnel dans les établissements. Et donc ça, on travaille avec les entreprises parce que les entreprises sont aussi impliquées dans le projet Marmite. On ne l'a pas encore dit beaucoup, mais on a un certain nombre de structures. Par exemple, la filière des entreprises du numérique, ça s'appelle Numéum. On travaille avec Numéum, on travaille avec une association régionale qui s'appelle l'ADIR, qui est l'association des directeurs informatiques de la région Centre. D'ailleurs, directeur informatique, vous voyez le côté un peu genré du truc. Mais donc, néanmoins, il y a des femmes dans l'ADIR et il y a une volonté de toutes ces associations parce que les entreprises du numérique peinent à recruter. Il y a vraiment un problème qu'on appelle de chômage négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnel qualifié. Et on cherche en général, enfin les entreprises, ce qu'elles cherchent, c'est des gens avec un niveau de formation au moins Bac plus 3, mais plutôt Bac plus 5. Et donc là, c'est des problèmes sur le temps long parce qu'on ne va pas changer ça très vite, on le sait très bien. Mais les entreprises sont mobilisées et notamment donc, pour organiser de façon plus massive. Ça existe déjà de façon très... sporadiques, des personnes qui vont aller intervenir dans le collège de leur enfant. Eh bien, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça se fasse de façon beaucoup plus organisée, beaucoup plus massive, et d'accompagner aussi les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, là, à la limite, on peut penser que aussi des hommes peuvent tenir ce discours, mais qu'ils soient formés à éviter de transmettre des biais de genre. Parce que c'est vrai que des fois, par exemple, on parle souvent, une erreur qu'on peut commettre, c'est de parler d'autocensure. On va dire les jeunes filles s'autocensurent. En fait, c'est une mauvaise interprétation parce que autocensure, ça revient à leur faire porter une responsabilité, alors qu'en fait, elles sont juste victimes des stéréotypes qui ont été imposés à la fois peut-être dans leur famille ou par le milieu scolaire ou pour la société en général. Et donc, des fois, on dit « Ah oui, mais elles s'autocensurent », et ça, c'est pas très correct.
C'est clair, oui. Et comme on disait tout à l'heure, tu parlais de nouvelles actions qu'on pourrait mettre en place. Alors, la marmite qu'on a dit, donc, c'est donner plus de visibilité aux actions, essayer de donner un peu de cohérence tout en respectant l'autonomie de chaque partenaire. Donc, mais pour faire de nouvelles actions, on a besoin de financement. Alors ça, c'est un point important, la marmite, parce qu'on n'a toujours pas notre financement. Donc on fonctionne, mais pas à pleine vitesse encore, on va dire, on est en phase de décollage. Est-ce qu'on a demandé une demande de financement dans le cadre de l'AMI CMA? Donc l'AMI CMA, c'est l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir dans le cadre de France 2030. Alors on n'a toujours pas de réponse, en tout cas pas de réponse positive. On avait une première réponse qui demandait un peu plus de détaillage. On a refait une deuxième demande et depuis c'était bloqué. Bon, pendant quelques temps il y avait plus de réiter dans la région académique. Ensuite, il y a un recteur qui a été nommé au mois de juillet, début juillet, mais ensuite, il n'y a plus de gouvernement. Alors, donc, on a été bloqué. Voilà, donc on espère que ça va aboutir et que grâce au financement de combien on a demandé, un budget total, on a un budget total de 8 millions sur notre projet, 8 millions d'euros, dont une demande d'aide de 4,9 millions d'euros. Donc avec ça, oui, on a beaucoup d'idées, on veut faire plein de choses, justement, comme on le disait, dès les plus jeunes, hein, parce qu'on sait que les sciences, et en particulier pour les jeunes filles, tout se joue dès le plus jeune âge. Hein. Il faut casser ces stéréotypes, faire découvrir l'attrait pour les sciences et les mathématiques dès les élèves de primaire, ou même avant. Alors nous, on essaye de faire des actions post pour l'instant, mais c'est vrai que pour ça, il nous faut des moyens. Alors on espère que dans les prochaines semaines, on va avoir une réponse positive du gouvernement, malgré les restrictions financières que l'on connaît, et que l'avenir n'a pas de prix en tout cas.
Pierrick Bidot, Sorita et Stéphane Cordier pour Marmite, hein, la maison des actions régionales pour les mathématiques, l'informatique et leurs interactions ici en région Centre-Val-de-Loire. Alors, Radio Campus Orléans, cette année, fête ses 30 ans. Alors, j'avais envie de voir un petit peu avec vous, nous projeter dans le futur, dans 30 ans, où est-ce qu'on en sera pour les mathématiques, l'informatique et aussi la place des femmes dans ces domaines-là.
Alors ça, c'est une bonne question. Alors moi... Alors moi, je me suis livré à un exercice comme ça de prospective pour imaginer mon domaine scientifique qui est les mathématiques. Justement, en l'an 2000, j'ai écrit un petit texte qui s'appelait Les mathématiques en 2030. Et on s'approche de 2030 et je me rends compte que je m'étais pas mal planté. Donc, c'est un exercice difficile, évidemment, la prospective. Moi, je suis d'une nature assez optimiste. Donc, pour ce qui concerne les mathématiques, moi, je me dis que dans le passé, il y avait beaucoup plus de femmes dans le numérique que d'hommes. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à inverser cette tendance et qu'on revienne à minima vers une égalité, et voire peut-être même que c'est un balancier et que dans 30 ans, peut-être que la balance penchera à l'inverse et qu'on aura des actions pour essayer de reconvaincre les hommes de revenir vers le numérique.
Oui, ou alors qu'on n'ait pas besoin de faire d'action pour avoir ni d'hommes ni de femmes en défaut sur ce secteur, les mathématiques, le numérique. On l'a évoqué tout à l'heure, les assises des mathématiques. Donc c'est vrai que, pour donner quelques chiffres, ça a un impact sur 13% des emplois des salariés et ça représente les mathématiques, 18% du PIB en France. On ne s'en aperçoit pas, mais c'est vrai que c'est un secteur très important. Et on est en pénurie de jeunes scientifiques, en tout cas, même d'étudiants qui font des sciences. Et donc là, j'espère que dans tout le temps,
il y a un grand mathématicien qui disait ce problème d'avoir suffisamment de candidats pour les postes, etc., en fait, il serait réglé complètement s'il y avait autant de femmes que d'hommes. Parce qu'en gros, ça doublerait, parce qu'il y a tellement peu de femmes que s'il y avait autant de femmes que le nombre d'hommes actuels, eh bien, on aurait presque le double. Et là, on arriverait à peu près à une solution. Sachant que la question du numérique, dans les prochaines années, dans les 30 prochaines années, c'est difficile de savoir vraiment, mais c'est clair. Enfin, je pense qu'on peut imaginer que c'est des secteurs qui vont continuer d'évoluer. Évidemment... l'intelligence artificielle a déjà énormément d'impact et va continuer d'en avoir sur beaucoup d'emplois et les emplois vont continuer d'évoluer au fur et à mesure des évolutions. Il y a une grosse révolution qui est attendue et prévue pour en tout cas moins de 30 ans normalement, c'est l'informatique quantique. L'informatique quantique, c'est quelque chose qui mériterait une émission
avec plaisir.
Et je peux vous faire des suggestions éventuellement de personnes qui pourraient vous en parler beaucoup mieux que moi.
Une sur l'IA, une sur le quantique.
Mais allons-y, je signe.
On revient à tout.
Et donc, l'informatique quantique, ça changerait énormément de choses sur les problèmes qui peuvent être résolus avec l'informatique, mais ça changerait pas non plus tout. Et donc il y a énormément de choses qui vont sans doute évoluer et notamment probablement avec le quantique. Néanmoins, moi je suis convaincu qu'on aura toujours besoin d'humains, hommes et femmes, et pour encadrer de sorte que ces progrès soient des progrès et que ces évolutions technologiques bénéficient au plus grand nombre et apportent plus de choses positives que négatives.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Pierrick et Stéphane, justement, de Marmite, la Marmite de cette région Centre-Val de Loire qui met à l'honneur l'informatique et les mathématiques. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne de Radio Campus Orléans dans la Science Infuse. Merci à toi, Naïs, de m'avoir accompagné et également à Clémence et Léandra d'être dans les coulisses, mais d'être quand même présente. Nous, on continue en musique avec Parsley Disco. Vas-y.
Oui, un dernier petit message. Mot. On parlait de rallye thématique tout à l'heure et donc là, c'est les 40 ans. Je sais que c'est 30 en Radio Campus, est-ce qu'on va certainement mettre un appel à témoignage pour un petit livre d'or pour toutes les personnes qui ont participé à Rallye Mathématiques depuis 40 ans, donc sur marmite.fr ou sur Rallye Mathématiques du Centre.fr. Je fais passer le message, s'il y en a parmi tous les éditeurs des personnes qui ont passé le Rallye Mathématiques, s'ils peuvent nous mettre un petit mot sur cette plateforme. Elle va être mise en place bientôt, c'est pas encore, mais voilà.
J'y laisserai un mot du coup aussi.
Merci.
Avec plaisir. Parsley Disco, un titre de Baharat dans la Science Infuse. On est encore ensemble pour une petite quinzaine de minutes. Dans quelques instants, restez avec nous, on écoutera un des épisodes de cette série de podcasts réalisés par les doctorants et doctorantes de l'Université d'Orléans qui nous vulgarisent leur sujet de thèse. À tout de suite.
Vous êtes toujours dans la Science Infuse sur Radio Campus Orléans. Je vous le disais, je vous le promettais, les podcasts des doctorants et doctorantes de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, on part pour le Grémy de physique avec Alex Capel, qui est doctorant et qui nous parle de son procédé laser intelligent pour la texturation des matériaux céramiques. Écoutez.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le son d'un artisan en train de décorer une pièce de verre avec une meule. Et ça, c'est le bruit de mon laser quand je grave du verre. Vous êtes sur Radio Campus Orléans et voici l'histoire du jour où j'ai découvert le chant du laser. Pendant mon cursus ingénieur, on faisait beaucoup de visites d'entreprise. Et un jour, on est allé se perdre dans un hangar, au fond d'une zone industrielle vers Saint-Jean-de-Bray, et on a découvert une entreprise, et plus particulièrement un personnage, Samuel Després. Le magicien des lasers. Un artisan graveur qui utilise les lasers pour décorer tout type d'objets. Pour moi, ça a tout de suite été une révélation. Ça faisait un moment que j'étudiais l'optique, je savais que ça me plaisait, les lasers, tout ça, mais je ne trouvais pas d'application qui me faisait vraiment vibrer. Mais là, la décoration, ça m'a tout de suite plu. C'est pour ça que lorsque j'ai terminé mes études d'ingénieur, je suis tout de suite retourné chez Samuel. Et c'est assez rapidement qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'une thèse sur le sujet. Et me voilà 4 ans plus tard, en dernière année de doctorat.
Bonjour Alex.
Salut Hassan.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de la thèse que tu fais au Grémy.
Exactement, ouais. Donc là, je suis en dernière année en thèse CIFRE au Grémy avec le professeur Najib Semar à l'Université d'Orléans.
Une thèse CIFRE, c'est quoi ?
Alors, une thèse CIFRE, c'est un peu particulier parce que c'est un financement privé, en fait. Donc, c'est une entreprise qui finance ma thèse, au contraire d'une thèse publique.
Et qu'est-ce que ça change d'avoir une thèse, un financement public ou un financement privé ?
En fait, ça change deux choses. D'abord, le sujet de la thèse, il est issu d'un accord commun entre le laboratoire et l'entreprise. Donc forcément, le sujet est plus applicatif. Et deuxièmement, c'est pas toujours vrai, mais souvent il y a des missions quand même à faire pour l'entreprise, un peu comme les cours quand on est dans un financement public.
Parle-moi un peu de l'entreprise.
Donc l'entreprise, elle s'appelle Décor World Service, ou DWS, et elle est basée à Orléans, au Lab O. Mais elle possède aussi deux autres antennes dans le monde, une à New York et une à Singapour. Donc cette entreprise, elle a été fondée par Aurélien Ricci et Samuel Després, le Samuel de tout à l'heure. Donc cette entreprise, elle propose un service de personnalisation de produits de luxe. Donc plus concrètement, c'est une entreprise qui fabrique une machine dans laquelle il y a un laser et elle va vendre cette machine aux grandes marques. L'objectif étant que le vendeur ou la vendeuse doivent juste placer le produit dans la machine, écrire le message personnalisé et appuyer sur « graver ». Et donc, il faut obtenir la bonne gravure au bon endroit avec la bonne police. Tout ça, ça fonctionne très bien, mais le souci, c'est que pour obtenir une belle gravure, ça demande une grande expérience. Et ça repose sur un métier, qui est le métier d'artisan graveur, fait par Samuel, du coup.
C'est quoi concrètement le métier d'artisan graveur laser ?
Alors, le métier d'artisan graveur laser, c'est à la fois le métier le plus important et le plus complexe de l'entreprise. C'est le plus important parce que sans lui, il n'y a pas de belle gravure en fait. Et c'est le plus complexe parce que c'est le métier qui demande le plus de connaissances dans les lasers, mais aussi une grande connaissance des matériaux. Savoir quel laser va créer quel type de décor sur quel matériau. Ça ressemble un peu au métier d'ébéniste. C'est quelqu'un qui va partir d'un morceau de bois et qui va creuser des sillons, des motifs pour créer des reliefs dans la matière. Sauf que, bon, l'avantage du laser, c'est qu'on va pouvoir créer des reliefs beaucoup plus petits, avec des géométries beaucoup plus fines, qu'une fraise ou une meule, par exemple. Et l'avantage aussi, c'est qu'on ne va pas ajouter de produits chimiques, comme des peintures ou lors de la gravure à l'acide. Et, bon, le plus gros avantage du laser, c'est qu'on peut faire tout ça beaucoup plus rapidement. Il faut se dire que pour un artisan qui décore un objet à la meule, ça va lui prendre quelques heures. Si on remplace cette personne par un robot, on peut atteindre quelques dizaines de minutes. Mais avec le laser, en général, il y en a pour moins d'une minute.
Trois mots donc, hein, pour résumer ça. Précision, écologie rapide.
Exactement. Comme je l'ai dit, l'artisan, il doit connaître parfaitement son faisceau laser, savoir comment il se comporte en fonction de ses paramètres et avoir une bonne connaissance des matériaux. Donc les matériaux, ça peut être du bois, du cuir, du verre, du plastique, tout ce qui rentre un peu dans le packaging, les matériaux du packaging. Pour avoir un ordre d'idée, il faut savoir que sur un laser, il y a environ 6 paramètres principaux et que chacun modifie beaucoup le résultat final. On peut s'en rendre compte, par exemple, avec nos écrans d'ordinateur ou de smartphone, on n'a que 3 couleurs de pixels, rouge, vert et bleu, et on voit déjà la quantité de couleurs qu'il est possible de créer avec ces trois pixels. Quand on se rend compte de la quantité de possibilités, on comprend que ce n'est pas possible de tout tester. Et que la connaissance s'acquiert au cours des années et demande un certain savoir-faire. Par exemple, la personne qui va être en charge de la gravure laser, elle sait que voilà, avec ce jeu de paramètres-là, dans ce domaine-là, ça fonctionne bien. Ce type de paramètres-là, ça peut donner ça. Mais c'est difficile d'avoir une connaissance de tout ce qu'il est possible de créer. Aujourd'hui, pour aller plus loin, il va falloir comprendre. Il va falloir faire de la science. Et c'est ça le point de départ de ma thèse.
J'aimerais bien que tu nous parles maintenant de ce que c'est un laser.
Alors, un laser. Pour commencer, il faut savoir que le laser, c'est une machine qui crée un faisceau laser. Dans mon cas, il faut se dire que le laser, donc la machine, fait à peu près la taille d'une brique de lait. C'est assez puissant, c'est pas un pointeur de tableau, mais c'est pas non plus assez puissant pour découper une porte de vaisseau spatial. On a vu la taille du laser, mais maintenant il faut s'intéresser à la taille du faisceau laser. Un ordre de grandeur, c'est à peu près la taille d'un crayon de papier. Donc pour l'instant, si je refais l'image, on a une brique de lait qui tire des crayons de papier. Donc pas de quoi faire quelque chose de très précis. Pour avoir un faisceau utilisable, on va le concentrer, le focaliser. Et on fait ça avec une lentille. Ça va permettre de faire deux choses. Bon, déjà, le plus évident, c'est qu'on va réduire la taille du faisceau à peu près à la taille d'un cheveu. Et deuxièmement, on va concentrer le laser, donc c'est-à-dire qu'on va augmenter sa densité de puissance. C'est ce qui se passe par exemple en plein été quand on utilise une loupe sur notre peau. De base, le soleil ne va pas nous brûler, mais si on concentre la lumière du soleil à un point précis, là ça brûle. Maintenant, pour résumer, on a une brique de lait qui tire des petits cheveux qui brûlent. Et donc on va pouvoir mettre tout un tas de matériaux en dessous pour voir ce qui se passe. Donc moi, dans ma thèse, j'ai choisi d'étudier le verre.
Et pourquoi le verre ?
Alors le verre, c'est le matériau qui est à la fois le plus courant dans l'industrie du packaging. Quand on pense à un flacon de parfum, une bouteille de champagne, tout ça c'est fait en verre. Mais aussi parce que dans l'entreprise, le verre, en fait, c'est le matériau qui est le plus difficile à graver. Notamment parce qu'il a facilement tendance à casser avec la chaleur. On a tous fait l'expérience de mettre de l'eau bouillante dans un verre d'eau. En général, il explose. Mais on peut se poser la question de pourquoi. Là, je vais vous expliquer le premier principe physique. Il s'appelle l'expansion thermique. C'est le fait que les matériaux vont gonfler sous l'effet de la chaleur. Quand on verse rapidement de l'eau bouillante dans un verre, la face intérieure du verre, qui est en contact avec l'eau, va gonfler. Sauf qu'elle va être comprimée, retenue par la face extérieure du verre, qui, elle, n'est pas encore chaude. Et donc tout ça, ça va créer une force qui va pousser vers l'extérieur et mener à la rupture du verre en fait. C'est un peu comme si l'intérieur du verre était emprisonné par l'extérieur. Et c'est exactement ce principe qui est à l'origine de la gravure laser. Sauf qu'on va chauffer une toute petite région pour créer une faible force. Mais ce n'est pas le seul mécanisme qui intervient pendant la gravure laser. En général, on continue à chauffer un petit peu jusqu'à la fusion du verre, environ à 1500 degrés Celsius. À cette température, le verre est liquide. Alors, pas liquide comme de l'eau, il faut s'imaginer quelque chose de plus visqueux, un peu comme de la lave. Après la chauffe, c'est là qu'on a le mécanisme le plus important. Donc, on a un petit bain de verre liquide, au milieu du reste du verre, qui est en train de refroidir, donc de dégonfler. Sauf que, en dégonflant, à un moment, le verre va redevenir solide, assez rapidement. Mais, il va redevenir solide, mais il va toujours continuer à se dégonfler. Donc le verre qui est en train de se dégonfler va être emprisonné par l'extérieur du verre en fait. Un peu comme le cas tout à l'heure avec le verre d'eau bouillante qui était en train de gonfler. Sauf que là il va se passer le phénomène inverse, le verre va dégonfler et il va être retenu par le verre à l'extérieur. Et donc au lieu d'avoir un flacon qui explose, on va avoir un petit fragment de verre qui va se détacher de la masse de verre de départ. Et donc ce petit fragment, il va laisser un trou et on va faire plein de petits trous successifs pour obtenir des sillons et au final un décor. Donc ce deuxième principe physique, qui est le plus important que je vous ai expliqué, ça s'appelle la relaxation viscoélastique. Pour résumer, on a une petite brique de lait qui tire des petits cheveux qui brûlent, qui vont créer des trous sur la face du verre et qui vont mener à une décoration. Donc, je vous ai parlé de paramètres tout à l'heure. Selon le paramètre, on peut faire des fragments plus ou moins gros, plus ou moins concentrés, plus ou moins proches. En fait, c'est ça le métier de doctorant. Mais d'un point de vue plus concret, en fait, tout ça, ça se traduit par des modèles physiques, des lois qu'on va étudier, qu'on va ajouter ensemble pour faire des modèles et essayer de comprendre quel paramètre laser va jouer exactement sur quelle propriété, sur la taille des fragments, par exemple, sur leur concentration, tout ça. Et donc, c'est ça mon travail. Auquel on va ajouter une partie plus ingénierie à la fin, qui est de savoir, j'ai créé un état de surface avec des trous, et l'objectif c'est de savoir à quoi ressemble cet état de surface pour un œil humain qui observe une gravure. Donc ça c'est la deuxième partie qui est encore loin dans le projet, mais à terme l'objectif c'est d'avoir un outil de gravure laser qui soit aussi simple d'utilisation qu'une imprimante qui imprime sur un morceau de papier.
Et pour finir, tu avais des remerciements ?
Oui, j'aimerais remercier l'Université d'Orléans et Radio Campus pour m'avoir accueilli aujourd'hui. Je remercie aussi DWS qui finance ma thèse, parce que sans ça, il n'y aurait pas grand-chose. Et je remercie Olivier, Françoise, Quentin, Nadia, toutes les personnes qui m'ont aidé à écrire ce podcast, et surtout Hassan. Merci Hassan.
Merci à toi.
Looking for devotion. Her heart is craving action and emotion. Sharing her cup with the devil. Love for her is a soul possession. Evil mission.
Alex Capel est donc étudiant doctorant à l'Université d'Orléans et plus particulièrement au laboratoire du Grémy. On parle de physique de laser, comme vous avez pu l'entendre. C'est un épisode, c'est le deuxième épisode de cette série de podcasts autour des projets, des thèses, des sujets de thèse des doctorants et doctorantes de l'université. Qui est d'ores et déjà écoutable en intégralité, cette série, c'est sur notre site internet orléans.radiocampus.org. C'est la fin de cette édition de La Science Infuse. On se donne rendez-vous, même lieu, même heure, sur Radio Campus Orléans pour une prochaine édition.